La radiodiffusion française vous invite à écouter.
Après la guerre des six jours, la guerre d'usure.
Toute ma génération a vécu 67 comme l'humiliation la plus grande, parce que 67, c'est une guerre où cinq armées arabes affrontent l'armée israélienne. Ils se font battre en six jours, je dirais à plate couture. Et donc, c'est vécu par toute la génération qui a 18 ans, comme moi, en 67, comme étant l'échec total des régimes arabes, des armées arabes. Et donc, commence un mouvement de volonté de la plupart des jeunes arabes de prendre en main leur propre engagement politique.
Cet échec politique et militaire s'est transformé petit à petit en repli, en stagnation. On s'est installé avec des pouvoirs politiques qui, c'est vrai, nous ont enfermé les sociétés, et surtout sur le plan culturel. Et cette espèce de désert culturel, il restait la religion.
Deux interprétations très différentes par deux militantes des lendemains de 67, la palestinienne Leïla Chahid et la syrienne Basma Kodmani. La rhétorique égyptienne a voulu qualifier la défaite infligée par Israël, non pas de désastre comme en 1949, mais de simple revers d'un moment, Naksa et non Nakba. Il reste que l'humiliation a été aussi sévère qu'inattendue pour les régimes arabes, et qu'il leur faut bien rendre des comptes, même s'ils ne sont pas soumis à élection. S'ils avaient pu sortir leur pays du sous-développement, s'ils avaient introduit des procédures plus démocratiques, la défaite aurait-elle pu être évitée? 3 ans après 1967, la question de la responsabilité se posera autrement. Nasser sera enterré dans un immense concours de peuples. Arriveront de nouveaux leaders, Kadhafi à Tripoli, Hafiz el-Assad à Damas. Et avec la fin du panarabisme nassérien, la question de la place du mouvement palestinien va aller grandissant. La nation arabe a besoin de son action pour trouver une justification de son existence, mais le nouveau leader de l'OLP, Yasser Arafat, tout en embrassant ostensiblement ses frères, les leaders arabes, sait que son combat pour un État palestinien n'est pas exactement le leur. Dès septembre 1968, les Arabes ont dit que le temps de la riposte était venu et qu'elle allait commencer sous la forme d'une guerre d'usure. Et cette guerre d'usure s'inscrit dans la guerre froide. Les Américains cultivant une relation spéciale avec Israël, et les Soviétiques envoyant aux Égyptiens des MiG. Cette activité militaire, irrégulière plus que régulière, incessante, masque une vague de fond qui monte et qui reste à l'époque encore peu visible, celle que Basma Kodmani qualifiait d'islamisme.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
On a vu hier que dans l'opinion arabe, on va préférer ce mot à celui de rue arabe, la surprise a été totale à la suite de la défaite rapide face à Israël. Les Palestiniens expulsés lors de la guerre précédente en 1949 avaient ressorti les clés de leur maison qu'ils gardaient précieusement et qu'ils espéraient retrouver. Et en réalité, ce sont de nouveaux réfugiés qui vont maintenant affluer aux frontières des pays arabes. Ainsi, à Port Saïd, c'est au nord du canal de Suez. Le canal de Suez va être fermé pour de longues années. La ville, qui était sous responsabilité internationale depuis 1956, ne va plus l'être. Les habitants égyptiens sont nombreux à fuir les bombardements israéliens. Un film, l'honneur de Mohamed Chaban.
Quelqu'un a pensé à prendre la télévision ?
N'importe quoi, Fatma. Tu crois que nous allons en vacances à la campagne ou quoi ?
Alors, on part où ?
Quelle importance ? C'est partout pareil, noir comme du goudron.
Et le 3 juin, le colonel Nasser, depuis le Caire, dit vouloir se retirer.
Ne sommes-nous pas responsables des conséquences de ce revers ? Et je vous dis que je suis prêt à porter l'entière responsabilité, et j'ai décidé d'abdiquer de tout poste officiel et de tout rôle politique pour retourner dans la société civile.
transmise par toutes les radios arabes, vous entendez la foule qui proteste contre la décision du colonel Nasser de se retirer, et le dirigeant égyptien entend que ses sujets ne souhaitent pas qu'il parte. Et du côté jordanien, le roi Hussein, il a perdu aussi beaucoup de ses territoires. Il a joué à quitte ou double et il se retrouve dans une situation très difficile. Et surtout, les réfugiés de la rive droite du Jourdain rejoignent tant bien que mal le petit royaume hachémite.
Sur ce croquis représentant schématiquement les confins israélo-jordaniens figurent les données de la nouvelle tragédie palestinienne. La Jordanie, Israël est délimitée par cette ligne hachurée à l'ouest du Jourdain, la province de la Jordanie occupée aujourd'hui par les forces israéliennes avec les lieux saints de Bethléem et de Jérusalem. La nouvelle frontière, la voici, c'est le Jourdain, et entre les deux rives, la coupure est totale. Les deux seuls ponts qui enjambent le Jourdain dans cette région, les ponts Abdallah et Hussein, ont été dynamités. Pourtant, près de 100 000 Arabes palestiniens pris de panique se sont sauvés de la zone occupée aujourd'hui par Israël vers la Transjordanie, vers Amman.
Reportage de Jacques Abouchard pour Panorama, l'émission de télévision française. Eh bien, le roi Hussein de Jordanie, lui non plus, il n'abdiquera pas. Il est vrai que les Israéliens qui ont pu le tenir pour un gentil voisin et les Américains auxquels il demeure lié ne tiennent pas à son départ. Le témoignage ici de deux notables Jordaniens, Leila Sharaf et Mustafa Amarneh.
بفتكر إنه كان مقدر إنه راح نخسر بس مش بهذه الكارثية ولا إنه بضياع الضفة وفلسطين كاملة تضيع
من. Je pense qu'il s'attendait à la défaite, mais pas de manière aussi dramatique.
كان يمكن كان يفتكر إنه.
Perdre la Cisjordanie et la Palestine comme ça, ce n'était pas prévu.
بتدخل وبتفرض.
Nasser a peut-être cru que les grandes puissances allaient intervenir pour arrêter la guerre. Il a pu croire que la communauté internationale allait forcer Israël à abandonner. Mais ce n'était pas possible pour Hussein de se retirer de cette guerre. S'il l'avait fait, tout le monde l'aurait accusé d'avoir causé la défaite.
Dans ces derniers jours, il a reconnu avoir fait une erreur. Mais en privé, il disait que la guerre de 67 avait été une erreur. Bien sûr, s'il avait refusé d'y participer, la gauche des nationalistes l'aurait renversé en l'accusant de trahison et de complot avec les sionistes et les Américains.
Fin août 1967, les dirigeants arabes se retrouvent pour un sommet au Soudan, à Khartoum, et c'est la grande réconciliation du colonel Nasser avec les monarchies pétrolières. La rente pétrolière va financer l'effort de redressement, entendez, de reprise de la guerre des pays arabes. Pendant cette conférence, le leader de l'OLP, de la petite OLP de l'époque, Choukeri, est tenu à l'écart. Il va d'ailleurs finir par prendre la porte. Il sera remplacé peu de temps après. Les Palestiniens occupent très très peu de place dans les débats et aucune dans le texte final de Khartoum, qui refuse la négociation, la reconnaissance d'Israël et l'idée de la paix. Mais comme le dit Touba Nasser, on peut ne pas reconnaître un État, mais ne pas lui faire la guerre. Comprenne qui pourra. À l'automne qui suit, en novembre 1967, c'est la fameuse résolution 242 de l'Organisation des Nations Unies, retrait des territoires occupés en échange du droit de chaque État de la région de vivre en paix dans des frontières sûres et reconnu. Le général de Gaulle, qu'on a entendu conseiller au gouvernement israélien de ne pas tirer le premier, souscrit bien sûr à cette résolution. On se souvient de sa déclaration du 27 novembre 1967, où il observe que les Juifs dispersés de tout temps deviennent un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Une fois rassemblé dans le site de son ancienne grandeur, il change en ambition ardente et conquérante le souhait qu'il formulait depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem. On sait que les déclarations du général de Gaulle ont été mal comprises en France. 70% des Français les désapprouvent. mais elles vont donner lieu à une réévaluation complète de la politique française dans la région. Le général de Gaulle va déclarer peu après un embargo sur les ventes d'armes françaises à Israël et commencer à initier des pratiques à qui on donnera plus tard le nom de politique arabe de la France. Le général, le 8 février 1968.
Ce règlement doit comporter l'évacuation militaire et administrative des territoires qui, depuis le 5 juin dernier, ont été conquis, pris par la force des armes, la prise en charge par les Nations Unies du tracé précis et de la sécurité des frontières, l'institution de rapports pacifiques et normaux entre les voisins d'Israël et ce nouvel État, le rapatriement des réfugiés à qui ces mesures permettraient de regagner leur terre natale, un sort digne fait à ceux qui ne le pourraient pas, ainsi qu'aux minorités, et enfin la liberté de navigation, reconnue partout et à tous. Nous avons dit déjà, nous répétons, que la France est disposée à participer sur le terrain à l'application d'un accord qui serait fondé sur de telles bases.
Et oui, pour le général de Gaulle, la négociation devrait se faire à quatre grandes puissances. À quoi le président américain Johnson répond quatre grandes puissances. Mais or, les États-Unis et l'URSS, vous en connaissez deux autres. Il reste au général de Gaulle la satisfaction d'avoir le premier fait recevoir à Paris pour un très grand show de deux soirs à l'Olympia. Kalsoum, dont c'était la première sortie en Europe. Elle a demandé un cachet exorbitant, mais c'était pour en remettre le montant au gouvernement égyptien.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Aujourd'hui, les suites de 1967, c'est le 50e anniversaire de la guerre israélo-arabe. On disait encore à l'époque guerre israélo-arabe parce qu'on ne faisait pas beaucoup de place au mouvement palestinien. Mais la question qui se pose après l'extension subite du territoire israélien, c'est que faire des zones occupées ? Le gouvernement israélien ne verrait aucun inconvénient à ce qu'il se vide. Il choisit d'y maintenir le système administratif, judiciaire, éducatif, jordanien. Et les ponts sont ouverts, c'est ce que recommande le général Dayan, le ministre israélien de la Défense, afin d'assurer le passage des hommes et des marchandises entre la rive droite occupée et le royaume hachémite. Et le général Dayan parle même d'occupation libérale. Mais une occupation peut-elle être libérale ? Question posée par le journaliste gaulliste français Paul-Marie de la Gorce en reportage en 68.
Nous avons une population d'environ 1 million d'habitants qui sont environ 600 000 dans la Cisjordanie et environ 400 000 la plupart dans la bande de Gaza et encore environ 50 000 dans le Sinaï.
Les autorités redoutent moins les incidents de frontières que les attentats ou les coups de main à l'intérieur des territoires occupés. Les précautions sont donc prises. Bouclage des frontières en dehors des points de passage surveillés, quadrillage du territoire, contrôle des populations. Celles-ci gardent une certaine liberté de circulation, mais la surveillance militaire et policière, la menace d'expulsion et d'arrestation pèse sur elle. Une seule personnalité arabe a accepté de parler devant nos caméras, Monsieur Anwar Nusseiba.
Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce que les Israéliens appellent le terrorisme et de ce que les Arabes appellent la résistance?
Je pense qu'en régime d'occupation, il n'est que naturel pour un peuple de résister afin de pouvoir un jour mettre fin à cette occupation. Et cela a toujours existé dans le monde comme cela existe maintenant dans les territoires occupés.
Avant la guerre de 67, les Palestiniens de Gaza n'avaient pas de relation avec ceux de Cisjordanie et pas davantage avec ceux qu'on nomme aujourd'hui les Palestiniens de 1948 ou les Arabes israéliens. Après cette guerre, les trois parties commencent à se rencontrer de nouveau. L'occupation permet aux uns et aux autres de se fréquenter et de faire émerger de nouveaux mouvements. Le Fatah existait depuis 1965. Il va se trouver un nouveau leader, Yasser Arafat, Abu Ammar. Son objectif est de monter des opérations ciblées, faute de pouvoir constituer les petites bases secrètes arrière qu'il avait prévues sur le territoire cisjordanien. Le Fatah choisit d'intervenir depuis les pays voisins. Ainsi, en mars 1968, un fait d'armes qui devient légendaire à Karamé.
Un petit groupe de combattants palestiniens quitte leur refuge en Syrie et arrive au camp de Karamé.
Nous avons attendu que le véhicule de patrouille israélien s'éloigne, puis nous avons entrepris de passer le fleuve. Le premier à le franchir fut Abu Ammar.
We know that is not easy, but we are ready to pay the price.
L'eau du Jourdain m'arrive à peu près jusqu'ici, jusqu'à l'épaule. Pour un homme de grande taille, elle montrait moins haut. Mais Arafat a à peu près ma taille et l'eau lui arrivait jusqu'aux épaules. Il tenait sa besace sur sa tête et avançait très lentement. Il ne fallait pas qu'elle glisse et qu'elle tombe, car toutes ses affaires auraient été trempées. Ça aurait été une catastrophe, surtout pour les armes.
De l'autre côté du fleuve, en Cisjordanie, les combattants du Fatah commencent à recruter et entraîner de petites cellules de résistance pour frapper Israël. Ils posent des pièges contre l'armée d'occupation. Et ces raids des compagnons d'Arafat sont lancés sous le nez de l'armée régulière jordanienne.
Karamé était devenue une immense base pour les organisations terroristes en Jordanie, juste à côté du Jourdain, à la frontière israélienne. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été lorsqu'un bus israélien qui transportait des enfants en voyage scolaire depuis le sud du pays vers la mer Morte a sauté sur une mine, faisant des morts et des blessés, à la fois parmi les adultes et parmi les enfants.
En guise de représailles, l'armée israélienne reçoit l'ordre de détruire les bases terroristes en Jordanie et de liquider la résistance palestinienne une bonne fois pour tout.
À 5 heures du matin, nous avons été prévenus que les premiers éléments israéliens avaient traversé l'un des ponts.
L'armée qui s'avance vers Karamé est l'une des mieux équipées et des plus aguerries du monde. En face d'eux, il n'y a que 300 combattants palestiniens, faiblement armés, et qui ont reçu l'ordre d'Arafat de tenir leur position. À midi, la moitié sont morts, et beaucoup ont été faits prisonniers. Mais la journée n'est pas finie. Et à son tour, l'armée jordanienne contre-attaque. 29 Israéliens sont tués et 90 blessés. Leur armée se retire. Les Palestiniens célèbrent cette journée comme un triomphe.
Quelques petits bataillons du gouvernement jordanien sont venus nous prêter main forte et combattre à nos côtés sans aucune instruction de leur quartier général. Mais en définitive, ça a été la première victoire de la nation arabe après la grande défaite de 1967.
L'opinion arabe retire de la bataille de Karamé, ici racontée par Norma Percy et Brian Lapping, c'est un documentaire d'Arte. l'image de la ténacité des combattants palestiniens qui, eux, retirent de l'attitude de l'armée jordanienne l'hypothèse qu'elle pourrait continuer à les soutenir. D'ailleurs, les fédayines ouvrent des bureaux à Amman, dans les camps de réfugiés palestiniens. Le roi saoudien accueille une délégation de dirigeants du Fatah, donne de l'argent et des armes. Le nombre de combattants entraînés en Égypte augmente sensiblement. C'est au Caire qu'en février 1969, Yasser Arafat est nommé président de l'OLP. Et du côté du gouvernement syrien, quelle est son attitude vis-à-vis des Palestiniens? Voici un reportage de Jacques Abouchard, point contre point, ORTF, sur les hauteurs du Golan, à la limite de la zone occupée par les Israéliens et de celle restée aux Syriens. La parole est donnée, dans un français parfait, à un colonel syrien.
Nous nous trouvons actuellement aux abords immédiats de la région occupée après l'agression de juin 67. Juste en face de nous, à 2 km, 3 km, il y a le Knetra. Malheureusement, on ne peut pas le voir à cause de brouillard et de mauvais temps.
Cette région de Knetra, c'est ce qu'on appelle le Golan. Pouvez-vous nous dire ce que ressent l'armée syrienne devant l'occupation du Golan? Est-ce que représente pour l'armée syrienne le Golan?
Je me demande, par exemple, quel serait le sentiment. Quel sentiment approuve l'armée française un département français était occupé par une force étrangère quelconque? Toutefois, notre sentiment, c'est tout à fait normal et ordinaire, le sentiment de soldat qui ressent une partie de son pays occupée par une force étrangère. L'armée syrienne ne peut pas admettre aucune solution basée sur le fait accompli de l'occupation. Le peuple arabe, d'ailleurs, en Syrie, ne l'admettrait pas.
Et alors les Israéliens disent que s'ils rendent le Golan, les incidents qui avaient lieu jusqu'à 67 recommenceront de plus belle, c'est-à-dire que les positions syriennes étaient en hauteur et bombardaient les kibbutz dans la vallée.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois que nous avons une fois l'occasion, deux ans, de voir les positions. Les incidents de jadis étaient causés par l'agression journalière des Israéliens contre la zone démilitarisée, et c'est une zone arabe.
Y a-t-il des commandos palestiniens qui opèrent depuis le territoire syrien?
Voyez-vous, les fédayines opèrent, sont des citoyens arabes qui cherchent à lutter pour retrouver leur patrie.
Et vous coopérez avec les fédayines?
Sur quel plan?
Militaire.
Les fédayines sont des organisations de résistance. Et l'armée régulière a ses limites.
On sent l'hésitation du colonel. Installation dans la guerre d'usure, c'est déjà fait en 1969 avec des incidents quotidiens, un armement sans cesse renouvelé des Américains et des Soviétiques à chacune des parties. Mais quid de la guerre irrégulière, de la guerre des fédayines, là? Les frères arabes hésitent, d'autant que les Palestiniens sont de plus en plus fragmentés. C'est en décembre 1968 qu'un groupe dissident, le FPLP de Georges Habash, a commis le premier attentat en Europe contre un Boeing d'El Al sur l'aéroport d'Athènes. L'autonomisation du mouvement palestinien déplaît de plus en plus au roi Hussein. Les 6 ou 7 factions qui se disputent son territoire y érigent des bases, y érigent des barrages. Le Fatah fait monter les surenchères, ne voyant pas qu'il lui faudrait prendre des précautions contre l'action que le roi Hussein prépare, avec sans doute l'assentiment d'Israël et des États-Unis. C'est Septembre Noir en 1970 qui fera quelques 8000 morts et auquel Yasser Arafat échappera de peu. C'est d'ailleurs la dernière action du colonel Nasser que d'intervenir comme médiateur entre le roi de Jordanie et ses interlocuteurs et frères arabes, les Palestiniens, à l'issue d'une rencontre le 28 septembre avec ses deux partenaires. Le vieux colonel, diabétique, épuisé, meurt. Et son enterrement donne lieu à un immense concours de peuple.
Les forces navales vont tirer une salve de 101 coups de canon. Les Égyptiens sauront que c'est fini. J'ai vu le cortège funèbre, les porteurs de couronnes et un détachement de soldats des diverses armées marchant devant la dépouille du président Nasser. Le cercueil était enveloppé de couleurs nationales et était posé sur un appui de canon, tiré par 6 chevaux, entouré par 5000 cadets et escorté par des généraux. Le général Fauzi, chef du corps armé, les enfants du président, suivi de M. Sadat, président de la République par intérim, était à quelques mètres de la dépouille de l'ancien chef de l'État égyptien. Suivaient les rois et présidents et les millions d'Égyptiens. La foule continue d'avancer aveuglément. Personne ne peut encore dire ou se prononcer sur le nombre des manifestants. 6, 7, 8 millions. Une marée noire afflue de toutes les rues de la capitale. Les Égyptiens tentent de se rapprocher de l'itinéraire suivi par le cortège. Il est parti de l'île de Gezira, d'où le président avait organisé en 1952 son coup d'État. Les femmes sont toutes en noir, les monuments historiques sont recouverts de tentures sombres. La statue en granit de Ramsès II, haute de 12 mètres, a presque disparu, cachée par des grappes humaines qui s'y accrochent. À 200 mètres, à vol d'oiseau, passent des trains, sur les toits des wagons, les femmes et des enfants arrivent de province, du delta du Nil. Une fois à terre, les manifestants courent dans toutes les directions, arrachent des branches d'arbres et les agitent en signe de deuil.
Reportage de Paul Bichara dans les territoires occupés. Pareillement, des drapeaux, des chiffons noirs en signe de deuil flottent dans l'air pendant que des processions, presque aussi impressionnantes que celles du Caire, ont lieu dans nombre de capitales. Néanmoins, 3 ans après la défaite de 67, c'est la fin du panarabisme socialiste et pas seulement du colonel Nasser. Un nouvel alignement commence à se dessiner en 1970. Sadat, qui va remplacer Nasser, reste sur une position de détermination belliciste à l'époque. En Syrie, arrive à la tête de l'État à la suite d'un coup d'État Hafiz al-Assad. Bon, c'est l'ancien ministre de la Défense défait en 1967, mais il se veut le restaurateur d'une grande Syrie groupant autour de Damas le Liban, la Jordanie et l'État palestinien qu'il dit appeler de ses voeux, tandis que un peu plus à l'ouest, à Tripoli, le colonel Kadhafi vient de prendre le pouvoir. On voit qu'en 1970, les circonstances ne sont pas encore favorables à la négociation. C'est une nouvelle guerre en 1973 qui, paradoxalement, ouvrira les perspectives. Cette émission a été préparée par Céline Loriou et Ilinka Negulesco, avec à la réalisation Valérie Estaraï, à la technique Florent Beauvallet et Ludovic Asselot. Quoi de nouveau au programme de La Tête au Carré, cher Mathieu Vidard?
Alors Jean, dans un instant, on va parler du sexe sans contrôle, l'addiction sexuelle et les souffrances, on va voir qu'elle engendre avec mes invités psychiatres.
Vous parlez de manière très morale de l'addiction, bravo, donc rendez-vous à 14h.